Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Jacques Lascar. Jacques, tu es astronome. Tu viens de me dire que tu es plus intéressé par les objets que par la théorie.
Oui, je suis prêt à tout pour comprendre un problème, oui.
Tu vas participer à ce colloque sur les erreurs en sciences et tu as proposé un thème que je trouve tout à fait intéressant qui concerne l'étoile du berger, la planète Vénus.
Ce problème de Vénus, moi je le vois comme un exemple dans un problème beaucoup plus général et qui est très présent en astronomie, qui est le rapport entre observation et théorie. Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, quand on parle d'observation, on parle de fait d'observation. Pour mes collègues astronomes observateurs, il n'y a que l'observation qui compte. C'est-à-dire qu'une théorie n'est rien sans observation. C'est l'observation qui donne la vérité.
Sauf que la théorie peut suggérer des observations.
Oui, et en fait, quand on parle de théorie, on parle de spéculation théorique. Donc en fait, c'est un peu l'opposition entre fait d'observation et spéculation théorique.
Si ma théorie est correcte, alors à tel moment, à telle heure, on devrait observer tel phénomène, donc on demande à l'observateur d'aller observer ça.
Oui, ça c'est une manière de voir les choses, mais le problème c'est de savoir est-ce que l'observateur, lui, ce qu'il observe, c'est la réalité. En préambule à cette discussion, moi j'ai toujours à l'esprit quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans. C'est une époque où je ne connaissais rien à la botanique. J'avais à peine discerné un pissenlit d'autre chose. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de comprendre, d'apprendre à reconnaître les fleurs. Donc, j'ai acheté un livre qui est assez technique, La Bonnier, la flore Bonnier, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment le grand classique. Et je suis parti dans la forêt, à la recherche d'une fleur à identifier. Après pas mal de recherches, je trouve une fleur. Pour la Bonnier, il faut dépioter la fleur. Et on regarde, on la dépiote dans tous les sens. À chaque fois, on a une bifurcation. Et à la fin, on a une détermination. Et je vois Jacinthe des Bois. Et c'est marqué « commun ». Alors je me dis, bon, ils sont gonflés quand même. « Commun », moi, c'est la première fois que je vois ça. Et je me relève et j'en vois partout. C'est-à-dire que quand je ne la connaissais pas, je ne la voyais pas. Et le fait de l'avoir connue, identifiée, j'en voyais partout. Et ça, bon, je pense que c'était une expérience que beaucoup ont partagée d'une manière ou d'une autre, mais moi, cet instant-là, ça m'a vraiment frappé. Et sur ce rapport, finalement, qu'on a à l'observation. Qu'est-ce que c'est l'observation? Et le fait que, finalement, dès qu'on connaît les choses, on les voit. Donc, il y a vraiment cette difficulté à séparer l'observation des modèles qu'on préconçoit. On revient à Vénus. Alors Vénus, en fait, elle a été observée pour déterminer sa rotation, d'abord par Jean-Dominique Cassini. Donc Jean-Dominique Cassini, ça a été le très grand astronome du XVIIe siècle, il était italien, qui a été appelé à Paris pour la direction de l'Observatoire de Paris. En fait, à l'époque, les meilleures lunettes étaient italiennes. Donc c'est un peu normal qu'on trouve en Italie les meilleurs observateurs. En 1665, il observe Jupiter, il voit la tache rouge de Jupiter, et à partir des observations de la tache rouge, il détermine la vitesse de rotation de Jupiter. Il trouve 9h55 min 53 secondes et demie, et la valeur réelle actuelle, c'est 9h55 min 29 secondes 7. Donc c'est vraiment une très belle détermination, c'est 1665.
Donc il a regardé combien de temps il fallait pour que la tache rouge
revienne, voilà, le nombre, il regarde plusieurs observations et il en détermine la vitesse de rotation.
Et on ne peut qu'être admiratif devant ces grands précurseurs.
Et on peut qu'être admiratif, surtout quand on connaît la qualité des lunettes de l'époque, c'était pas évident de voir quelque chose. Il va regarder Mars. Mars, pareil, la même année. Et là, il voit des structures à la surface de Mars. Et il en détermine la vitesse de rotation de Mars. Il trouve 24 heures 38 minutes. La valeur actuelle, qui est connue, la plus précise, c'est 24 heures 37 minutes 22 secondes. C'était il y a 350 ans. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc, du coup, il va regarder Vénus. Alors, il regarde Vénus. Bon, là, il a du mal. Ce qui est amusant dans qu'on lit les récits de l'époque, c'est que pas du tout comme un texte moderne scientifique. Là, il dit, ces jours-ci, il faisait plutôt mauvais, j'ai pas pu le voir. Mais quelques jours après, dans une petite éclaircie, j'ai pu voir Vénus. Et il distingue à sa surface des taches qu'il dessine. Il n'est pas très confiant, mais quand même, à la fin, il dit... Je pense que la vitesse est un peu moins, la période de rotation est d'un peu moins de 24 heures.
Donc il pense que ces taches sont des structures sur le sol.
Ce sont des structures qu'il voit à la surface et il en déduit une période, bon, sans être très affirmatif, il en déduit une période d'un peu moins de 24 heures. Ce qui, ben, on a la Terre 24 heures, Mars 24 heures et quelques, on comprend.
Puis Vénus, c'est un peu notre sœur.
Voilà. Mais après, il y a un autre Italien, Francisco Bianchini, qui fait des observations, donc maintenant, ça, c'est plus de 50 ans après, hein, c'était en 1726, il observe, et il dit, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je vois 24 jours, 24 jours, 8 heures. D'où controverse.
Avec la même méthode, en observant des tâches.
En observant des tâches. Il cherche des tâches, et il cherche à les retrouver après plusieurs jours, et il déduit cette période de 24 jours. Bon, bien sûr, ça fait une grosse discussion, et Jacques Cassini, donc le fils... de Jean-Dominique Cassini, va observer, lui, à nouveau. Il se dit quand même, il faut en avoir le cœur net. Et il trouve, en 1752, il trouve 23h15.
Donc, il défend son papa.
Donc, c'est un bon fils. Il retrouve quelque chose qui est en ligne avec ce qu'avait trouvé son père. Hein. D'ailleurs, il l'écrit dans ses Éléments d'astronomie, qui est un très beau volume où il parle de ça. Et en fait, ce qu'il montre aussi, c'est qu'il dit, oui, mais Bianchini trouve 24 jours, mais si je prends les observations de Bianchini... que je les intègre aux miennes et à celles de mon père, avec 23h20, je mets tout le monde d'accord. Bon, ça semble réglé, ce 23h20, ça semble bien établi. 40 ans plus tard, Johannes Schroter, c'est-à-dire un Allemand, fait à nouveau, il va y avoir une campagne d'observation à nouveau, il trouve 23h20, 19 secondes. Ça se précise. Bon, mais quand même, les partisans de Bianchini n'ont pas rendu les armes. Il y a un observateur...
Il y a une question politique derrière tout ça ou pas ?
Je ne sais pas, je ne pense pas. C'est juste plutôt un débat scientifique. D'accord. Et Flaugergh trouve 24 jours, à peu près. Hein. Il n'est pas très précis. Mais il y a un autre Allemand, Fritsch, qui re-observe en 1801. Il trouve 23h22. Donc plutôt du côté de Cassini. Puis les Cassiniens sont plutôt plus précis. Et encore dans une autre campagne d'observation en 1811, il va même être beaucoup plus précis. Il accumule les observations et il trouve 23 heures, 21 minutes, 7 secondes, point 977. Donc là, on commence à avoir
de la précision.
De la précision, hein. Il y a un autre Allemand, Husset, qui lui ne fait pas d'observation, mais réanalyse un peu les textes et dit qu'il est plutôt d'accord avec ce que racontait Bianchini, avec cette période de 24 jours. Donc c'est pas, il n'y a pas de nouvelles observations, c'est pas de la nouvelle science, il n'y a rien. C'est juste une appréciation de ce qui a déjà été publié. Mais du coup, ça va motiver une nouvelle campagne d'observation qui va être pris en main par les Italiens, en gros, qui vont défendre, finalement...
Il y a peut-être un côté politique, quand même.
Ouais, mais les deux sont italiens. Il y a Cassini et Bianchini étaient italiens, donc on ne peut pas dire...
Mais Cassini était français, en quelque sorte.
Cassini était quand même la grande figure de l'époque, quoi. Ça va motiver une nouvelle campagne de 10 ans d'observation, où alors là, c'est des jésuites, c'est le collège de Rome des jésuites, qui va vraiment mettre le paquet pour faire des observations de Vénus. Et c'est le principal, c'est Francesco de Vico.
Toujours sur le même principe, on prend une tâche.
Toujours le même principe, on cherche des tâches, on les prend et on les suit, on les retrouve quelques temps après. Et on suppose en fait que même ces tâches sont des éléments fixes de la surface. Hein. Il faut bien voir que Bianchini avait fait une planisphère de Vénus avec les tâches de la surface. Et donc, ces observations de Francesco de Vico, les observations des jésuites, c'est plus de 11 000 observations. C'est vraiment... Il y a plusieurs observateurs qui font ça toutes les nuits, enfin, pendant une grande période. En fait, avec toutes ces observations, alors là, ils obtiennent la détermination ultime de la vitesse de rotation de Vénus. Ils obtiennent 23 heures, 21 minutes... 21 secondes, point 9345. Donc en fait, on comprend, c'est un peu comme maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'on a un problème, déterminer la rotation de Vénus. Les astronomes disent, on va améliorer la détermination de la rotation de Vénus. Ils demandent des crédits pour faire ces campagnes d'observation, à ce qui est l'équivalent du CNRS aujourd'hui. Ils obtiennent ces fonds, ils font cette campagne, et ils obtiennent une meilleure détermination de la rotation de Vénus. Donc c'est vraiment la science en avant, le progrès de la science, grâce à ces campagnes, les unes après les autres.
Ça, c'est quelle année, ça?
Ça, c'est 1840-1850.
D'accord.
Et d'ailleurs... Il en est rendu compte dans l'ouvrage de Flammarion, Terre du ciel, paru en 1884. Et Flammarion écrit, Camille Flammarion, hein, c'est vraiment le grand vulgarisateur de l'astronomie. Flammarion écrira, la période de Vénus, hein, de rotation de Vénus, a été définitivement déterminée en 1841, grâce à une belle série d'observations organisées sous le ciel extraordinairement très pur de Rome par le père de Vico et fixées à 23h21 minutes 22 secondes. Alors, c'est pas fini. Parce qu'en fait, en 1890, il y a quelqu'un de très intéressant qui est un astronome, observateur, Giovanni Schiaparelli.
C'est celui qui a des trucs sur Mars, les canaux de Mars.
C'est celui qui a observé les canaux martiens, qui a vu sur Mars tout un réseau de canaux, qui en a fait le...
Qui a extrapolé très largement.
Qui en a fait la cartographie. Ces canaux ont été revus après par Lowell. Mais en fait, Schiaparelli, il fait un travail très sérieux. Il analyse toutes les observations anciennes sur la rotation de Vénus. Il regarde tout ce qui a été écrit. Il en fait d'ailleurs un très bon compte-rendu. Il observe. Et il n'est pas convaincu. Il dit, moi, je vois rien. Moi, je vois pas, je vois pas vraiment quelque chose bouger. En fait, pourtant, il avait de l'imagination. Il avait vu les canaux de Mars, mais là, il voit rien.
Donc, à l'époque, il n'y avait pas de photographie, bien sûr.
Non.
Donc, on dessinait
ce qu'on voyait. On dessinait, mais les dessins étaient de bonne qualité. Hein, on dessinait. En revanche, Schiaparelli était aussi théoricien. Il connaissait les travaux de George Darwin. George Darwin, c'est le fils de Charles Darwin, et c'est le premier à avoir compris pourquoi la Lune présente toujours la même face à la Terre. Il a compris qu'en fait, la Lune, initialement, tournait plus vite, mais sa rotation a été ralentie par les effets de marée exercés par la Terre sur la Lune, de la même manière qu'aujourd'hui, la Lune exerce des effets de marée sur la Terre qui ralentissent la rotation de la Terre de 2 millisecondes par siècle, donc ça, c'est rien. Mais l'effet de la Terre sur la Lune est beaucoup plus fort et était encore plus fort quand la Lune était plus proche. Et donc, la rotation de la Lune a été complètement ralentie jusqu'à être synchrone avec son orbite autour de la Terre. Schiaparelli se dit, ben, Vénus, ça doit être la même chose, mais vis-à-vis du Soleil. C'est-à-dire que la rotation de Vénus était plus forte, était par exemple comme celle de la Terre, mais avec les effets de marée exercés par le Soleil sur la planète, sa rotation ralentit jusqu'à devenir synchrone avec son orbite autour du Soleil.
Donc ça, c'est une théorie pour l'instant.
Ça, c'est purement la théorie de Darwin. Et ce que dit Schiaparelli, moi, je ne vois rien bouger. Le plus probable est que Vénus soit dans cet état synchrone de rotation et donc que sa période soit de 224 jours et pas de 24 heures ou... c'est-à-dire la période orbitale de Vénus autour du Soleil.
Donc on a trois périodes, 24 heures, 24 jours et 240 jours.
Voilà, donc 224 jours. Alors, à nouveau controverse, Camille Flammarion, qui défendait De Vico, qui avait écrit que vraiment ça avait été établi de manière absolument formelle par De Vico, il va revenir là-dessus, il a un petit observatoire à Juvisy, il va observer Vénus, il fait des très belles observations de Vénus, qu'il va publier. Et en fait, elles sont tellement bien, ces observations, qu'il voit des détails à la surface. Il voit même des calottes polaires sur Vénus, qu'il décrit, qu'il dessine. Je vous rappelle que la surface de Vénus, c'est 460 degrés.
Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, peut-être que tu vas en montrer par la suite, tous ces observateurs sont stables. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont fait une observation, ils en font une autre après, et ils trouvent la même chose. Il n'y a pas eu de déclaration publique, je me suis trompé.
Ah non, 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 à aucun moment. À aucun moment. Bon, là, on est sur 200 ans. Hein. C'est 200 ans d'observations confirmées les unes après les autres. Bon, il y a une divergence de vue entre... Mais en fait, c'est quand même... On se confirme, on retrouve les mêmes choses, on s'appuie sur les observations précédentes, et à chaque fois, on améliore les résultats. Donc, c'est le progrès de la science. La réponse définitive va être apportée en 1964, c'est-à-dire presque 100 ans plus tard, et donc 300 ans après les premières déterminations de Jean-Dominique Cassini. La détermination s'est faite avec les radiotélescopes de la NASA. Ces radiotélescopes vont servir à faire des échoradars sur Vénus au moment des conjonctions. Et on va trouver que Vénus a une rotation très lente de 243 jours, mais rétrograde. C'est-à-dire qu'elle tourne à l'envers. Personne n'y avait pensé, mais je dirais qu'il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose de juste, et c'est le seul, c'est en fait Schiaparelli. Il avait dit « La rotation de Vénus, la planète Vénus, va se trouver dans un état d'équilibre entre point d'équilibre de la force de marée qui amène cette rotation à la rotation synchrone. » Ce que ne pouvait pas prévoir Schiaparelli, c'est que c'est bien un état d'équilibre, mais il n'y a pas que la marée solide en jeu. Il y a aussi une autre marée, qui est la marée thermique atmosphérique. Cette marée thermique atmosphérique, elle est due en fait à un bourrelet, mais ce bourrelet, il est dans l'atmosphère. En gros, le soleil chauffe l'atmosphère. À ce moment-là, on a un déplacement des masses de l'atmosphère qui crée un bourrelet qui est plutôt perpendiculaire à la direction du soleil. Et quand la planète tourne vite, ce bourrelet est un peu déplacé. Et là, on a un couple accélérateur. Donc, la marée thermique accélère la planète, la marée solide ralentit la planète, et se forme un équilibre. Disons que l'ancien équilibre stable qu'on avait de marée solide qui amène la rotation synchrone devient instable, et on a la formation de deux équilibres stables de part et d'autre, qui correspondent à l'équilibre avec ces marées thermiques atmosphériques, et dont l'un est rétrograde.
Alors maintenant, je vais te poser la question qui tue. La réponse finale est venue en 1962 ou 64, je ne sais plus. Ouais. Comment sais-tu que c'est la réponse finale ?
C'est vrai, on pourrait dire, après tout, après trois siècles d'erreurs, ça peut continuer. Mais là, en fait, la différence, c'est que finalement, là, on a une observation, et puis on a aussi un modèle qui est en cohérence avec l'observation. Donc, on a quelque chose qui est plus solide. Les sondes spatiales ont quand même considérablement raffiné cela, hein, puisqu'on est, on a eu une couverture radar de Vénus, c'est-à-dire qu'on connaît toute la géographie de Vénus.
Est-ce que je peux résumer en disant que le vent souffle sur Vénus?
Le vent souffle, oui, il y a des vents très forts sur Vénus. D'ailleurs, au début, initialement, avec les observations télescopiques, ce qui avait été observé, c'était une rotation de Vénus, mais une rotation des vents de Vénus. On voyait une vitesse de rotation de l'atmosphère qui n'est pas la vitesse de rotation de la planète, qui est plus rapide.
Est-ce que tu as une musique qui accompagne bien ce que tu viens de me raconter ?
Une musique, alors oui, j'ai pensé à quelque chose qui est un air très connu d'opéra. D'opéra écrit par un Anglais, mais italien, l'opéra italien, c'est l'Ascia Chiopianga de Handel dans Rinaldo, et puis par Jaroussky, ce sera encore mieux. Ça se mariera à l'ambiance italienne de cette histoire de Vénus.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.